Salut tout le monde, bienvenue sur l'épisode 20, le Trichot épisode 20 avec cette semaine Julien Pousson. Salut Julien, comment ça va ?
Salut, bonjour à tous, ça va bien, je suis de retour après une petite mise au vert du côté de Font-Romeu, en pleine forme.
Ouais, je crois que t'as failli avoir un arrêt cardiaque là, ce week-end, là, il me semble, on en reparlera un peu plus tard.
Ah, c'était intense, ouais.
On a avec nous Mike Aigrose. Alors Mike, parapentiste, il fait de la voile, il profite de la vie quoi. Allez, l'hédoniste Mike Aigrose avec nous.
Salut tout le monde, ouais ça va bien. En plus, on a battu les Français ce week-end sur un mixed team relais, qui est quand même assez rare.
Putain, obligé de faire un recours, quoi. C'est moche, hein. C'est moche. Et on a notre franco-canadien international, quoi, Pissiaquet, monsieur Alexandre Saint-Jean. Salut Alex.
Salut, en fait je suis juste Montréalais, c'est autre chose, mais c'est pas grave.
Mais je croyais que t'étais Pissiaquet.
Oui, de naissance. C'est une semaine exceptionnelle parce que j'ai rien à dire.
Bon, alors ça, rendez-vous dans 3 heures pour le verdict après 3 heures de podcast. Allez, les actualités, c'est parti. Julien, c'est à toi.
Allez, on démarre les actus comme d'habitude avec le matos, la surprise du chef avec une sortie d'un nouveau vélo du côté de chez Specialized.
Et oui, à écouter certains, des journalistes auraient fait fuiter les photos et la marque californienne aurait été obligée de sortir dans la précipitation et l'urgence leur vélo. Dans la nouveauté, oui, le vélo est plus rigide, plus aéro et plus léger. Est-ce que vous sentirez la différence? Probablement que non, mais ça aurait été choquant qu'ils disent quelque chose d'autre parce que c'est le discours habituel. Les gains sont assez marginaux. On parle de 5 watts à 45 km/h. Et puis, j'en parle souvent, l'industrie est dans une position assez difficile en ce moment parce que on a atteint une sorte de plateau en termes de performance et il faut toujours créer des différences visuelles pour vendre de la nouveauté. S'il n'y a pas de nouveauté, pas de nouveau vélo, pas de profit, toujours la fameuse obsolescence programmée qu'on connaît si bien dans nos téléphones. Ce qu'on a appris de ce lancement, c'est que 80% des gains sont obtenus dans le guidon combinaison potence et barre. Ce qui choque dans ce vélo, c'est l'avant. Il est plus aéro, mais esthétiquement, c'est beaucoup moins intégré à l'ensemble. Pour faire perdre du poids, parce qu'il est effectivement le plus léger du circuit, 685 grammes. Pour le cadre, on a un poteau de selle qui est très, très étroit. Et d'ailleurs, il est impossible d'y placer sa batterie Shimano. Faut faire une sorte de tour de passe-passe pour réussir à ce que ça marche. Voilà, c'est des choix qui sont assez étranges et où on se dit presque le SL7, c'était pas mal. Soit la génération précédente qui semble vraiment plus cohérente. Le vélo est disponible uniquement avec des groupes électriques. On parle de prix entre 8 000 et 14 000 €. Vous connaissez déjà ma position là-dessus. C'est cher.
Ouais, c'était le Specialized SL8 du coup qui vient de sortir. On continue avec la rubrique Geek et Golden Cheetah, le logiciel d'analyse des séances vélo. Il a sorti une nouvelle version, Alex.
Ouais, et je tiens à rappeler que dans cette inflation folle, c'est bien parce que c'est une plateforme qui est libre de droit et donc gratuite. Elle permet de faire tout le suivi de vos séances. C'est un outil très puissant et qui n'a rien à envier à toutes les solutions commerciales dont TrainingPeaks. Avec la version 3.6 qui sort pratiquement 5 ans plus tard, on a enfin une interface moderne et vraiment plus claire. Vous pouvez rapidement synchroniser vos données avec Strava et d'autres plateformes en ligne. Profitez de tous les concepts comme le fameux wattage balance, le calcul automatique de la puissance critique et suivre votre niveau de fatigue. Moi, j'ai essayé et il y a un concept très intéressant qui est spécialement pour les triathlètes avec le Triscore qui tente justement de quantifier votre volume en prenant en considération les 3 disciples. Je sais que c'est un concept qui est assez décrié, mais pour bien du monde, ça fait la job.
À retester du coup pour moi parce que c'est un logiciel que j'ai déjà utilisé. Je suis bien content qu'il y ait une nouvelle version qui sorte parce que c'est vrai que l'interface était pas du tout intuitif. Donc ça c'est plutôt cool à essayer. On enchaîne avec l'eau libre. Vous avez pas pu passer à travers sur les dernières actus. L'épreuve de natation a été annulée à Paris du fait de la pollution de l'eau suite aux pluies qui sont tombées sur les dernières semaines en région parisienne. Donc voilà, on va voir ce que ça donne par rapport à la tenue du test event, si ça va tenir ou pas, mais on est un petit peu suspendu à la météo et en tout cas de mon côté, je regrette quand même qu'il n'y ait pas de plan B.
Il y a eu une information qui est sortie tout de suite après l'annulation par un employé de la mairie qui dit que le test de la où aurait eu du dimanche, finalement, là où ils pensaient faire la course, ben, l'eau était claire et qu'ils auraient pu nager. Est-ce que c'est un tour de passe-passe?
Le risque,
est-ce que c'est un tour de... Ouais, exactement. En tout cas, ça serait assez magique à quel point l'eau peut se nettoyer rapidement. Mais c'est possible.
Allez, on enchaîne avec quelques résultats maintenant. C'était du côté de Balıkesir en Turquie avec le championnat d'Europe de triathlon format sprint qui se déroulait sur deux super sprints, demi-finale, finale. C'est toi, Julien, qui a regardé un petit peu les résultats.
Ouais, moi, j'adore voir ce genre de course qu'on appelle sprint sur format super sprint. Je trouve que, voilà, ça aide à la compréhension du triathlon général d'appeler une course et de faire d'autres formes. Bref,
en soi, deux super sprints, si tu les additionnes, ça fait un sprint.
Oui, bien sûr, mais à Hambourg, on a appelé Cassandre championne du monde de super sprint, et pourtant elle en a fait des super sprints, donc je sais pas en addition ce que ça donne. En tout cas, donc c'était direction la Turquie à Balıkesir ce week-end avec l'équipe de France qui repart avec trois titres, donc c'est bien pour les Bleus, surtout les juniors qui ont brillé avec Ilona Adum, donc qui remporte après son titre mondial, qui remporte le titre européen. Sixième, Manon Laporte en junior toujours. Chez les garçons, la médaille en chocolat pour Nils Ergeri du VMT, Vallée de Montmorency Triathlon, qui est un habitué maintenant qu'on commence à voir de plus en plus sur la scène internationale. Il y a Mathilde Gauthier également qui s'est offert donc le titre de championne d'Europe chez les élites. Audrey Merle qui termine cinquième, Candice Denisot dixième et sixième U23. Baptiste Passemard qui prend aussi la quatrième place en élite, mais la deuxième place en U23. À noter également donc le DSQ, on en a parlé un petit peu en intro, donc la disqualification du relais mix français, a priori pour avoir drafté un athlète lapé. Le recours a été fait par nos chers amis suisses, et donc qui enlève du podium la France et se place troisième.
À signaler que l'équipe suisse était quatrième en fait, et l'équipe française troisième, et du coup l'équipe suisse a joué le jeu de la règle, et je pense qu'ils ont eu raison. En tout cas, l'arbitrage leur a donné raison, ce qui leur a permis de récupérer une médaille de bronze.
Le relais mixte a suscité pas mal de bruit sur les différents réseaux sociaux avec la non-sélection d'Audrey Merle au profit de Candice Denisot. La veille, Audrey Merle avait terminé cinquième. A priori, on lui aurait promis de faire partie de ce relais. C'est pour ça qu'elle était venue à Balıkesir. Et finalement, c'est Candice Denisot qui a été appelée.
Ils sont neutres.
Voilà. L'idée, c'est pas de mettre les athlètes les uns contre les autres, mais c'est dommage. Audrey Merle s'était un petit peu attristée par la situation.
Ouais, ce qu'il faut savoir pour que tout le monde comprenne, le fonctionnement actuel en équipe de France, en tout cas la plupart du temps, c'est que le relais, l'ordre du relais, la composition du relais est décidé après la course individuelle. Et donc, par rapport aux performances d'Audrey, de Candice, de Mathilde, de Baptiste et de Briac Tansé aussi, dont on n'a pas parlé, les entraîneurs nationaux ont décidé d'une composition de relais, et donc sans Audrey Merle et sans Briac Tansé d'ailleurs, puisque c'est Gaspard Tarot qui a fait la course en junior, qui a pris place dans le relais élite sur les championnats d'Europe.
Ouais, donc il y avait un mix entre les U23 et puis les élites, mais effectivement, voilà, si on a promis une place à quelqu'un et qu'on lui donne pas, c'est vrai que ça peut créer des sentiments partagés. À noter également, donc là, les frères Batista qui du Portugal, donc là le Portugal qui a raflé trois titres également pour les frères, avec le titre en élite et en U23, parce qu'il était assez jeune pour avoir les deux titres. Et son frère, donc son petit frère, qui remporte le titre en junior. On verra si c'est un développement précoce ou pas, mon cher Alex.
Ah, tu me l'as enlevé.
J'espère que non. Moi, j'aime pas ça, les développements précoces, mais il y en a qui me donnent raison.
On bascule du coup du côté du longue distance avec le Challenge London, avec la victoire de Fenella Landridge et de Sam Ledlow, qui, pour son retour à la compétition, s'est offert une victoire sur le sol anglais.
Ouais, la victoire de Sam, bien évidemment, il était favori de cette course, hein, il a maintenant un nouveau statut, donc pour lui, c'était normal, c'est normal en fait qu'il gagne, après il fallait toujours confirmer. Il faut noter quand même que pourquoi ce choix, ça peut-être s'expliquer parce que Challenge versera une prime de il y a $125,000 de bonus en fin d'année au classement, un classement challenge. Donc chaque fois que vous gagnez la course ou vous faites podium, etc., en fonction de votre classement, vous gagnez des points. En fin d'année, un peu comme PTO, en fin d'année, ben, il y a un ranking. Et en fonction de ce ranking, vous gagnez de l'argent, 125 000 dollars de bonus. Mathis Margeria, elle est actuellement le premier français, deuxième, il me semble, dans ce ranking-là.
Ouais, et puis je suis un peu étonné du choix de Sam Nedlow, du coup, puisque il y a aussi le classement PTO à jouer. Il y avait l'Ironman 73 Tallinn également, donc en Estonie, qui se déroulait le même week-end et qui pouvait donner en tout cas plus de points. On verra ce que ça donne sur le classement général PTO et puis qui arrivera à récupérer la meilleure bourse.
Ben là, je vais peut-être donner un éclairage.
Moi, je vais défendre Sam. Sam s'était blessé à Ironman Ross. Fait que je pense qu'il avait un retour à peu près de 4 semaines. Fait que je peux comprendre que parce qu'il s'était blessé au mollet. Fait que je peux comprendre qu'il a préféré reprendre la compétition avec quelque chose d'un peu moins sélectif et ainsi de suite.
Et donc du côté de l'Estonie pour l'Ironman 73, on notera la victoire de Laura Phillips, l'Allemande, devant Imogen Simmons, la Suissesse. C'est tip top. Et Emma Pallante Brown, l'anglaise. Donc ça, c'est le podium chez les féminines. Chez les hommes, la victoire de Peter Emmerich, c'était assez attendu. C'était le favori de l'épreuve. Mike Phillips qui finit deuxième. Et puis un ancien du cours, Alessandro Fabian, l'Italien, qui finit troisième. On notera également la 8e place d'Aurélia Boulanger et de la 10e place d'Alexia Bailly chez les féminines. Et médaille en chocolat pour Ivan Jarić, ça fait plaisir. Il revient à un bon niveau de compétition après avoir eu quelques galères, notamment sur Ironman et sur le 73 des Sables d'Olonne. La 5e place pour Simon Vien, 8e place Nathan Gerber et puis 20e William Benson.
Ouais, bah tu vois, tu t'es interrogé tout à l'heure sur le Challenge Londres. Là, en l'occurrence, t'as vu le podium chez les femmes. Il est juste énorme. Les trois noms là que tu viens de citer, c'est quand même, c'était des potentiels vainqueurs PTO à Milwaukee, parce que, enfin, tout du moins, là, t'avais le top 10. Les trois, elles pouvaient prétendre à un top 10. Bah, elles ont préféré aller sur les championnats d'Europe.
Laura Phillips, elle marque quand même 90 points à Tallinn, ce qui est assez conséquent, et elle fait une bonne opération aussi. Je peux très bien comprendre le calcul de pas être allé à Milwaukee. Après, on va voir avec Singapour et tout, mais.
Et c'est là-dessus qu'on conclut les actus. On passe tout de suite maintenant à la rubrique. On refait la course avec la PTO à Milwaukee, PTO US. La course PTO US qui avait lieu donc le week-end dernier à Milwaukee avec, bah pour moi c'est la course la plus belle de l'année que j'ai pu regarder, pour diverses raisons, on va en parler. Un petit résumé sur la course homme, un groupe de 10 athlètes qui sortent en tête de l'eau, notamment mené par Aaron Reul, avec à l'intérieur Christian Blumenfeld, Yann Fodreno notamment, qui prennent tout de suite les devants sur le vélo. Christian Blumenfeld, Yann Fodreno se retrouvent rejoints par Mathis Margeria assez rapidement et ensuite par Magnus Dietlev. Il pose à 4 le vélo devant. Christian Blumenfeld, victime de crampes, doit lâcher quelques longueurs au début de la course à pied. C'est Yann Fodreno qui prend la tête. Et donc, Yann Fodreno qui garde la tête jusqu'à la fin. On a également un retour de Jason West qui termine deuxième avec un 18 km en 56 minutes, 4 minutes plus vite que ses autres concurrents. Et Christian Blumenfeld qui arrive malgré tout à garder la 3e place devant Mathis Margeria, 4e médaille en choc.
Ouais, pour les femmes, c'était le lendemain avec la victoire donc pour Taylor Nib qui s'impose donc sur cette PTO Milwaukee devant Ashley Gentle. Et en troisième position, on avait Paula Finlay, un petit groupe en natation qui était sorti avec Lauren Brandon tout d'abord en tête, mais pas loin derrière. On avait déjà Taylor Nib qui a pointé le bout de son nez. Elle s'est très rapidement portée en tête. Elle a mené la course jusqu'au bout. Ashley Gentle, elle, était dans un petit groupe avec notamment Lucy Biram qui était en tête du vélo, enfin qui a mené le vélo juste derrière du groupe de chasse, qui a mené derrière la chasse à Taylor Nib. Ashley Gentle, Paula Finlay, Lucy Biram, Molly Lawrence et Ellie Salthouse composaient un petit peu ce peloton de chasse. À pied, Ashley Gentle a repris un petit peu de temps sur Taylor Nib qui a géré son avance et qui a conclu donc cette PTO.
Et moi, je remercie Yann parce que du coup, j'ai eu 845 messages dimanche matin quand je me suis levé pour aller courir. 845 messages, les gars.
Et on notera également la 12e place de Marjolaine Pierret dans la course femme et DNF pour Clément Mignon qui a une journée un petit peu compliquée a priori. Et ben, Alex, qu'est-ce que t'as pensé de cette course?
Je pense qu'il faut être dans le positif. On a enfin eu du spectacle. Je pense que la promesse de la PTO de nous offrir des courses plus denses avec des grands talents, etc. Chez les hommes, on a eu le droit. Chez les femmes aussi, mais le spectacle a été un peu gâché. En tout cas, pas gâché, mais disons que Knib a un peu couru face contre elle en gérant un peu tout. Et on aimerait avoir un peu plus de compétition. Il y a des aspects ultra positifs et des changements qui ont été radicaux depuis Ibiza. On a enfin eu un vrai parcours à vélo où les motos étaient pas devant et qu'il y avait pas de voiture tout autour. Évidemment, on aimerait un truc un peu plus technique avec un peu plus de dénivelé, mais c'était quand même sympa. Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle.
Ouais, c'était sur une route fermée d'ailleurs.
Oui.
Fermer la circulation complètement.
Et la formule de multi-boucle et ainsi de suite, avec une route fermée comme ça, ben, elle se justifie, puis ça marche. J'espère que c'est le futur blueprint pour PTO, qu'elles seront tous comme ça. Évidemment, moi, j'ai des petites remarques, comme d'habitude, sur tout l'aspect du laugh tracking. On n'est toujours pas au niveau de tous les autres sports, avec des distances en... en direct, des écarts et tout. J'aimerais tellement, puis c'est la même chose pour le WTCS, si un jour on pouvait nous donner les temps pour chaque tour, qu'on sache si ça accélère, si ça va moins vite et tout, ça serait déjà génial.
Ouais, on avait sur cette course justement un petit GPS, on vous en avait parlé, qui était placé sur chaque athlète et qui pouvait notamment donner les informations de fréquence cardiaque en direct et de puissance en direct. Alors on a vu que ça fonctionnait pas tant que ça. En tout cas, moi j'ai regardé sur les données de Matisse et c'était pas exactement ça. Mais voilà, on salue l'initiative. Le live tracking a un petit peu buggé au début, mais on va dire que l'intention est cool et il y a encore quelques réglages à faire.
Ouais, moi j'apprécie la qualité vidéo de l'épreuve. La réalisation était quand même assez sympa, même s'il manquait des plans sur le reste de la course. On avait souvent que l'avant de la course en vidéo. Les plans drone étaient quand même très très sympas. Voilà, avec un peu plus de vidéos et toujours pareil, des caméras fixes, ça aurait pu être encore mieux.
Ouais, d'ailleurs, sur la course homme, certains athlètes ont posté comme quoi ils regrettaient de pas avoir eu quelques images de la bataille pour le top 10. Ils se sont retrouvés à 5 ou 6, notamment avec Lionel Sanders, à courir en même temps. Et c'est vrai que ça aurait été sympa de voir aussi cette bataille-là, mais voilà,
c'est drôle d'ailleurs, c'est que durant la course chez les femmes, ils ont mis une emphase très importante sur Kat Matthews, qui finalement a jamais vraiment été dans la course. Tamine 7e, elle était entre 10e, mais on voyait qu'il y avait une ligne éditoriale et que fallait en parler.
Ouais, comme il y a eu autour de Blumenfeld le drama par rapport à ses crampes, où il a dû s'arrêter plusieurs fois. Il y avait toujours une caméra qui était pointée sur lui, presque à attendre la prochaine crampe pour ne pas la louper. Et c'était pas mal, je pense, en tout cas en termes de spectaculaire et de dynamisme. Après, moi, j'ai regardé sur PTO+. Je sais pas ce que vous avez pensé, vous, de la diffusion sur Eurosport.
J'ai pas du tout regardé sur Eurosport. J'ai regardé sur PTO+, et j'ai trouvé que c'était très sympa. Et encore une fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, la meilleure course PTO filmée jusqu'à présent.
Moi, j'ai regardé un peu sur Eurosport par curiosité. Et je dois avouer que j'ai la chance de pouvoir passer sur PTO+, parce que je suis canadien et moi, j'ai le droit d'avoir un flux continu sans pub, etc. Non, mais carton rouge à Eurosport, tu veux vendre PTO, etc. C'est génial. Mais pas des coupures où tu viens juste nous donner des rétrospectives sur les Jeux Olympiques, sur la flamme et ainsi de suite. C'est comme tu coupes La diffusion pour des affaires où tu fais pas d'argent finalement, et du coup l'expérience du spectateur, ben tu le coupes tout le temps dans son effort. Je veux dire, c'est difficile de reprendre la course et tout, c'est dommage, c'était pas nécessaire, puis faut l'accepter.
Au niveau de l'arbitrage, il y avait également Race Ranger, enfin je dis de l'arbitrage, mais j'ai pas vu d'arbitre sur la course. Alors j'ai pas encore eu le retour de Mathis, mais il y avait Race Ranger qui était en place sur cette compétition là. La distance de non drafting était à 20 mètres, donc ça, par contre, j'ai trouvé que ça, visuellement, ça avait plutôt l'air respecté sur les portions droites, en tout cas. Maintenant, on a vu, Alex, quelques petits rapprochements, notamment dans les parties techniques.
Ouais, et en fait, Mirinda Caffrey, qui était la commentatrice, semblait dire qu'il y avait une consigne qui leur permettrait de faire cela. Si c'est le cas, c'est nouveau. Moi, je connaissais pas les zones où tu avais le droit de drafter et tout. Moi, ça me pose un certain problème, parce que durant une course, tu te bats pour ton ordre dans le train. Ça demande un effort assez conséquent pour remonter dans le train. Fait que dès lors qu'ils arrivaient en T2, qu'est-ce qu'on a vu? C'est que des athlètes comme Frono et ainsi de suite ont été capables de revenir vraiment sur les premiers et du coup, ben, reprendre plusieurs secondes. Ils étaient plus du tout à distance, en fait. Pour être plus clair, ben, moi, ça me pose un problème. et c'est quelque chose qui était récurrent avec PTO, c'est qu'on voit des infractions à la caméra et ça passe, ça doit pas passer. C'est qu'on a des preuves qu'il y a eu une infraction et du coup, il devrait y avoir sanction. C'est pas, il n'y a pas d'arbitre qui est là, ok, il n'y a pas de problème. De toute façon, on les a jamais vus, les arbitres. Le seul arbitre qu'on a vu, ben, c'est celui qui a ramassé, qui a dit à Frodo, passe-moi ta swimsuit. Fait que, voilà.
Alors, chez les femmes, hein, le drafting était, on avait l'impression qu'elles n'étaient pas à 20 mètres, hein, quand même, dans les lignes droites, aussi. Donc, c'est peut-être une impression visuelle, mais en tout cas, ça semblait pas forcément respecté, chez les femmes le lendemain. Donc, c'est toujours un petit peu, effectivement, comme tu dis, dérangeant quand ça se voit à la caméra. Bah, concernant l'arbitre, pour Frodeno, on en reparlera un tout petit peu plus tard dans le débat en bois. Mais il y a beaucoup d'autres, il y a eu d'autres faits d'arbitrage. On aurait pu parler aussi du bidon de Budenfeld qui tombe, qui s'appelle du littering. Donc, c'est-à-dire de jeter quelque chose, même si c'est non volontaire, ça peut se sanctionner également. Parce que c'est de la pollution, on va dire. On a également Trevor Follet qui s'est fait arrêter par un arbitre pour qui lui a demandé d'arrêter sa course au début du 7e tour parce que l'arbitre pensait qu'il était lapé et finalement quelques minutes après donc il s'est arrêté, il a pas cherché à discuter et quelques minutes après Pitio est venu le voir en lui disant que c'était une erreur d'arbitrage.
Désolé. Il faut aussi signaler que Jason West, qui termine deuxième, il a dû s'arrêter pendant le vélo pour resserrer ses prolongateurs. Alors ça aussi, c'est pareil. C'est du jamais vu. C'est que est-ce qu'il avait la clé sur lui? Est-ce qu'on lui a filé la clé? En tout cas, c'est cool qu'il ait pu continuer la course. Mais dans certaines compétitions, notamment sur World Triathlon, si t'as un problème mécanique et que t'as pas de quoi réparer avec toi, bah c'est mort. Et donc là, je alors pense qu'on lui a prêté des...
J'ai déjà vu des courses avec des zones mécaniques où tu avais le droit de t'arrêter avec des zones mécaniques. Et d'ailleurs, à l'image, l'un des gars qui lui passe la clé, en fait, a un t-shirt avec marqué « bike mécanique ». Donc, je suppose, mais ce sera vérifié, qu'il y avait une zone, en fait, dans laquelle tu pouvais avoir des mécanos pour régler des problèmes. Et d'ailleurs, à l'image, on voit également une roue. C'est marrant, mais enfin moi j'ai regardé l'image au ralenti justement pour t'as vu l'expertise et en fait tu vois une roue aussi à l'image. Alors est-ce que voilà c'était pas une zone en fait technique où t'avais la possibilité de faire réparer, de changer éventuellement une roue si besoin.
En tout cas c'est quelque chose à mettre à son crédit puisqu'il finit à 28 secondes derrière Frodeno et malgré ce problème technique là, même si Frodeno a quand même profité de la ligne d'arrivée, il a sans doute un petit peu ralenti. Jason West, il a quand même été, il a quand même montré que c'est un sérieux prétendant.
Il n'était pas à l'Ouest.
Il n'était pas à l'Ouest. C'est quand même un sacré prétendant pour gagner les courses PTO, en tout cas sur ce format-là. Il a vraiment été costaud.
Ouais, donc moi vraiment positif sur PTO. Après, faut régler ces petits problèmes d'équité et puis ça ira tout seul. Et ouais, le système de primes, c'est vrai qu'on en a pas mal discuté entre nous par écrit, mais il y a eu un changement dans les primes. Vous avez pu le voir entre 2022 et 2023. Et c'est vrai que le deuxième maintenant gagne beaucoup moins que ce qu'il pouvait gagner avant. Je crois qu'on est passé de 75 000 à 50 000 dollars. Ça peut paraître énorme, mais ça fait une grosse différence et qui au final est proportionnel aussi sur les places un petit peu moindres. Donc voilà. Mais c'est quand même extrêmement bien primé et même pour Mathis Margerier, il repart avec un très beau chèque et pour lui ça peut que l'aider pour la suite.
Et donc, on peut également signaler aussi que Mathis, il vient d'égaler la performance de Sam Laidlaw, hein, puisque Sam avait fait 4 au PTO US l'an dernier et au PTO canadienne, il me semble.
Alors, si on veut être précis, pardon, je suis désolé de te couper, mon cher Julien, mais en fait, il fait 3 même, parce que
Colin Chartier.
Sam, si on enlève le fameux Colin qui avait remporté l'année dernière, mais oui, allez, on va dire qu'il a égalé, mais ça voudrait dire que Mathis Margerier serait potentiellement deuxième à Kona en 2024.
Tu peux l'enlever, ça. on verra d'ici là, mais en tout cas, ouais, c'est pour signaler sa très belle performance. Et puis, ça va sûrement le hisser dans le top 15 sur le ranking mondial. Dans 3 semaines, il y a les Mondiaux 73. Moi, en tant qu'entraîneur, j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire sur une course comme ça.
Les Des Mondiaux qui se dérouleront à Lahti en Finlande, donc effectivement dans quelques semaines, et on suivra ça avec attention, que ce soit sur le Trichot ou sur Trim Cycle Performance. Allez, merci donc pour ce On refait la course, et on passe à l'invité de la semaine avec Katia Char.
Le dossier de la semaine.
On accueille cette semaine une invitée en provenance de Suisse. C'est Mike qui va être content. C'est Katia Schaer. Bonjour Katia, comment vas-tu?
Salut, ça va bien. Et toi?
Bah moi, ça va très très bien, merci. Et puis bah pour Katia, on a aussi Jeanne qui nous a rejoint sur le podcast. Donc on a un podcast multinational encore avec Jeanne du Luxembourg. Salut Jeanne, ça va?
Salut, ça va, merci.
Alors Katia, pour commencer, pour ceux qui te connaissent pas, comment tu pourrais te décrire en tant que triathlète, toi? Question difficile.
En tant que triathlète, alors je dirais je suis une triathlète... depuis plusieurs années quand même. J'ai commencé avec un peu course à pied, natation, et pourtant maintenant mon point fort c'est toujours le vélo et la technique sur le vélo surtout, et je pense que c'est là que je peux faire la plupart du temps la différence.
On a vu ça en boucle. D'ailleurs, comment tu l'expliques, ton niveau à vélo et ton aspect technique et tout? Parce que juste pour replacer le monde, à Hambourg, tu as à peu près 25 secondes de retard sur le groupe de tête qui roule, et toi, tu reviens toute seule sur le groupe.
Ouais, c'était
durant la finale.
C'était dur. Après, je pense que derrière, devant, ça s'est aussi un petit peu regardé, mais j'ai dû faire un gros effort là. Mais après. Ça devient presque un peu une habitude. J'ai pas envie que ça en devienne une, parce que j'aimerais bien le faire le travail pour pouvoir sortir plus tôt de l'eau. Mais ouais, je pense que j'ai fait beaucoup de progrès en vélo, en roulant presque tout le temps avec les gars de mon club du Triviera. Et ouais, j'ai tout le temps eu beaucoup de plaisir sur le vélo. Et pourtant, en étant jeune, j'ai presque pas beaucoup roulé. Enfin, on roulait une fois par semaine jusqu'à, je pense, mes 18 ans, je dirais, comme ça. Une fois, une, deux fois. Et puis, c'est quand j'ai commencé à m'entraîner un peu plus que j'ai pu voir direct beaucoup de progrès. Mais je pense que la technique à vélo, je sais pas exactement comment c'est venu. Je pense que, on descend beaucoup de passes, de montagnes ici en Suisse. Et peut-être c'est dû à ça. J'ai aussi fait du ski de compétition, du coup technique des virages, je l'ai un peu en tête, même si c'est pas la même chose. Ouais.
Il faut rappeler à ceux qui nous écoutent, donc tu es né en 2001 et donc tu es encore une U23, si mes calculs sont bons, si je me trompe pas, et et que par exemple tu as remporté la médaille de bronze sur le relais mixte, tu faisais partie du relais mixte donc au championnat du monde de relais, et tu as à ton compte quelques top 10, donc top 10 sur à Sunderland avec la 9e place, top 10 également à Hambourg donc 8e place, donc pour tes résultats cette année, c'est quoi le résultat dont tu es la plus fière jusqu'à maintenant de ta carrière à haut niveau en tant qu'élite?
Je pense actuellement c'est Hambourg. Franchement, j'étais tellement fière et contente de pouvoir
le relais ou l'individuel?
L'individuel surtout, ouais, le top 8, c'est ce qui m'a permis d'avoir deux critères A pour me qualifier au JO, donc c'était vraiment mon objectif principal, et j'ai pu le faire, donc c'était vraiment un point hyper important dans ma carrière, j'ai l'impression, jusqu'à maintenant.
Ouais, justement, Katia, sur les Jeux Olympiques, on rappelle que les critères de rang A, tu me dis si je me trompe, mais c'était deux top 8 sur WTCS à faire cette année. C'est bien ça?
Ouais, exactement. Deux top 8 en WTCS, ou alors un top 3 en championnat d'Europe ou au European Games. Et un top 8 en VTCS.
Donc toi, l'avantage, c'est que tu as eu donc la médaille de bronze sur les championnats d'Europe à Madrid,
ouais,
et un top 10 sur WTCS, donc t'as validé ton critère de rang A. Est-ce qu'il y a d'autres Suisses qui ont également validé un critère de rang A?
Chez les filles, non. Il y a Julie qui a fait un top 8 à Sunderland.
Julie Doran.
Ouais, exactement. Mais
elle va faire Paris, elle?
Oui. Ouais, c'est la seule fille suisse qui va faire Paris, en fait. Du coup, on n'a pas de relais. Youhou.
Et pourquoi toi tu fais pas le Paris? Pourquoi tu viens pas au test event?
En fait, je voulais venir, c'était le plan depuis le début, mais maintenant que j'ai fait les deux critères et on est justement parti maintenant en altitude à Saint-Moritz depuis début août, et c'était un peu ça coupait vraiment le camp en altitude vu qu'on a fait Sunderland, du coup ouais, ça marchait pas très bien dans le plan au final. Les athlètes qui vont, c'est, ils doivent y aller quasi, mais ouais. Alors, si je me suis dit, bah, il y a beaucoup de grandes nations, que c'est un objectif hyper important. Et pour nous, bah, un peu moins. Enfin, il y a aucun critère spécifique placé sur cette course, donc. Ouais, pour moi, enfin, ça aurait été cool de voir le parcours et de pouvoir être là, etc. Je pense que c'est quand même un truc que je manque, mais je pense que c'est mieux de pouvoir refaire un peu la base, parce que là, je sens que le fitness y descend.
Tu seras là l'année prochaine à Paris. C'est, en tout cas, c'est bien parti. Quand je regarde un petit peu tes résultats, il a dit Julien, championne d'Europe sprint U23 l'an dernier. Et puis cette année, t'es sur les top 10 en WTCS. Au final, on peut dire presque 3 top 10 puisque tu fais 12e à Montréal. Qu'est-ce qui a changé pour toi entre ces deux années? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé qui t'a permis de passer un petit cap en termes de niveau? Ou est-ce que finalement, c'est une évolution un petit peu naturelle pour toi?
Je pense entre l'année dernière et cette année, c'est un peu une évolution naturelle. Bah, j'ai commencé, je dirais, c'est surtout une grosse évolution par rapport à l'année 2021, parce que là, c'est là que j'ai fait un gros jump. Ouais, fin 2021, j'étais sûre qu'en 2022, je pouvais pas starter en NVTCS. Et au final, bah, je commence l'année 2022 avec des bons résultats en Coupe d'Europe, ce qui m'a permis de pouvoir participer à des VTCS, bah, la première à Montréal. Et je pense que bah, c'est un peu une évolution. C'était difficile de rentrer directement sur ce grand circuit et directement pouvoir être au niveau des élites. Du coup, je pense que ouais, y avait besoin d'une année de plus quand même. Et bah, j'espère que je vais pouvoir continuer comme ça dans cette évolution. Ouais.
Oui. Katia, alors, bon, moi, je te suis depuis tes plus jeunes années, vu qu'on est originaire de plus ou moins la même région. Alors, moi, je pense que le ski, ça aide quand même à prendre des virages en vélo, parce que c'est vrai que les Suisses et les Suissesses avaient toujours cet avantage sur les circuits un peu engagés au niveau des virages, d'avoir cette réputation de bons cyclistes. Donc, je pense qu'il y a quand même des gènes dans la région qui sont propices pour tirer des belles courbes. Et puis après, ben, moi, j'ai toujours un peu la question avec nos invités, plus par rapport aux structures d'entraînement, par rapport à ton groupe. Donc par rapport à la France, on sait qu'en Suisse on est un tout petit peu moins bien encadré entre les guillemets au niveau de la fédération. Donc explique-nous maintenant, bah, comment tu t'entraînes, avec quel groupe, et puis aussi, bah, cette évolution justement, est-ce que tu as eu accès à des infrastructures ou des entraîneurs professionnels depuis que tu as passé ce gap vraiment au niveau international?
Ma structure d'entraînement, bah, jusqu'à maintenant, ça a tout le temps été mon club. Enfin, jusqu'à 2020, je me traînais tout le temps dans la région de Vevey-Montreux, et j'avais pas un suivi particulier. Enfin, un entraîneur qui me suivait quand même, mais ouais, c'était pas un groupe d'entraînement pro. Mais fin 2020, j'ai pu rentrer dans le circuit de l'armée, enfin le programme de l'armée. Du coup, là, ces 6 mois étaient vraiment encadrés hyper bien, avec un groupe. On était 5 triathlètes, et ouais, là, t'es vraiment, on était à Macolin pendant 3 mois, et ensuite on s'est un peu déplacé dans la Suisse, mais bah, c'est là où j'ai commencé à m'entraîner un peu comme une pro, quoi, tous les jours, regarder que ça joue seulement pour les entraînements, quoi, et plus à regarder avec l'école et plein d'autres choses à côté. Et bah, maintenant, de 2021 jusqu'à cette année, on s'est entraîné à Sourzé. C'est là où ils ont fait le nouveau centre national. Il y a une grande piscine de 50 mètres, donc c'est hyper bien pour s'entraîner. Et puis on a un appart, une coloc à 4, ouais, à 3 minutes de la piscine. Donc franchement, c'est hyper pratique. Et puis bah, on a un coach qui est là tous les jours, c'est hyper professionnel. Et ouais, franchement, je pense que c'est ça qui a fait la différence aussi, de plus avoir les déplacements, etc. Parce que moi, je devais tout le temps faire 30 minutes aller, 30 minutes retour. Donc, pour chaque entraînement, donc c'était quand même beaucoup de déplacements et de stress extérieur avec les cours, etc. Donc là, de pouvoir être seulement focus sur le tri, bon, je fais quand même des études à côté, mais depuis la maison, etc. Donc ça m'aide pas mal. Et je pense que bah, c'est bien ce qu'ils ont proposé, la Swiss Tri, de faire vraiment un truc un peu plus pro où il y a vraiment tout le monde qui est là tous les jours, enfin tous les athlètes qui s'entraînent là. Après, il y a quelques athlètes qui sont venus pour des petites périodes, un mois ou comme ça, deux semaines. Mais ouais, on est quand même bien 10 athlètes à s'entraîner là tous les jours.
Ouais, bah vous voyez, pour vous les Français, ça doit sembler normal d'avoir ça à disposition. Mais malgré la belle image de la Suisse avec toutes ses richesses, c'est super récent qu'il y a des infrastructures offertes comme ça pour les athlètes de haut niveau au triathlon. Donc imaginez le nombre de médailles qu'on a fait aux Jeux Olympiques, la Suisse, sans structure professionnelle ou très peu. Qu'est-ce que ça va donner dans le futur? Je pense que là, ça va accélérer sévère, quoi.
Ouais, bah surtout les supports financiers. Enfin, nous, on a des apparts. La première année, on était soutenu par Suisse Olympique. La deuxième année, bah, on devait payer les apparts tout seul parce qu'ils ont changé les règles. Donc, ouais, en soi, c'est toi, tu dois t'investir à venir là, à payer ton appart et se bouger là où la fédération crée le centre, quoi. Donc, après, ouais, c'est des choix à faire, quoi.
Justement, on voit les perfs, notamment sur le relais suisse, puisque vous avez fini troisième au championnat du monde à Hambourg. Et moi, je suis ça aussi, puisque Sylvain, qui est dans mon groupe, était dans le relais, Sylvain Friedlans. Moi, ma question, c'est selon toi, là, avec l'amélioration des performances du relais suisse, comment tu positionnes ce relais-là au niveau mondial, notamment dans la perspective des JO? Est-ce que pour toi, vous êtes en capacité de jouer le podium? Est-ce que vous êtes plutôt autour du top 8? Comment t'estimes vos chances d'aller chercher une médaille de nouveau, puisque comme l'a dit Mike, vous êtes des spécialistes de la médaille olympique quand même.
C'est clair que je pense qu'une médaille olympique, on la vise, mais c'est difficile à dire en ce moment. Et je pense que on a encore beaucoup de petites choses à régler. Après, je pense que ce qui fait qu'on est un bon team, c'est que le team relais, c'est chacun fait sa course un peu tout seul. La dynamique de course, elle est beaucoup moins forte que quand tu startes à 30 ou à 60 sur un ponton. Ouais, là, le vélo, il joue quand même une grosse différence si tu sais rouler tout seul ou pas, si tu sais faire une course tout seul ou pas, quoi. Donc je pense que c'est là qu'on a beaucoup de chance que, on a pas mal de filles fortes à vélo, les gars aussi. Donc je pense que on a des bonnes chances. Après, il y a beaucoup de teams vraiment forts. je pense surtout à la France aussi qui à chaque fois ils sont tellement forts. Grande-Bretagne, allemand, etc. Donc c'est clair que va falloir faire la place, mais on reste positif.
moi, je vais revenir avec mon sujet préféré, le développement précoce. À partir de quel âge tu crois vraiment en tes chances de monter en WTCS? Et est-ce que c'est parce que évidemment à cause du côté francophone, on est probablement en comparaison avec la FF3 et tout, où on voit que les athlètes sont totalement dédiés au sport très tôt. Est-ce que toi, c'était ton cas finalement?
Ou... Bah, j'ai toujours fait beaucoup de sport et je me suis toujours pas mal entraînée en tri, mais je pense que jusqu'à ma fin junior, j'étais pas autant professionnelle que ça. J'ai fait pas mal de choses à côté et je mettais pas trop ma priorité ou pas souvent la priorité sur les entraînements. Et c'est clair que je voulais bien performer au grand championnat, etc. Mais ouais, j'avais un peu d'autres choses en tête. Et avec le gymnase, etc., c'était aussi un peu plus difficile. Et puis avec 2020, le Covid, etc., il y en a qui se sont beaucoup plus entraînés et moi c'était plutôt un peu l'inverse, ça m'a un peu freiné, j'ai un peu fait plus d'autres choses à côté, on va dire. Donc d'un coup ça m'a un peu j'étais presque plus trop sur la route de partir en élite. Mais comme j'ai dit avant, fin 2020, j'ai commencé à m'entraîner vraiment plus sérieusement. Et je pense qu'en 2021, ça s'est un peu concrétisé que je voulais faire ça à fond, quoi.
Quand tu parlais du gymnase, c'est l'équivalent du lycée en Suisse pour les Français. C'était pas un endroit où on fait de la gym, même si tu as fait de la gym quand tu étais jeune, comme tu disais.
Et moi, j'ai une question toujours par rapport à ton statut, à ta façon de professionnaliser ton entraînement au niveau du sponsoring, parce qu'on a souvent cette question avec les athlètes français, avec les sponsors, etc. Pour les Suisses, c'est comment le sponsoring pour un athlète d'un sport individuel comme toi? Tu gères avec un manager, tu te débrouilles toi-même, tu as des sponsors ou tu préfères juste utiliser les soutiens étatiques que tu reçois pour... pas forcément mettre de l'argent de côté, mais juste te concentrer sur le sport et puis pas perdre d'énergie à délivrer pour le sponsoring.
Oui, bah ouais, comme tu as dit, il y a ce que l'État nous donne, enfin, soit l'aide sportive suisse, c'est pas vraiment l'État, mais ça aide. Bah, l'État, c'est surtout par le biais de l'armée, on reçoit aussi de l'argent en faisant les jours de répétition. On reçoit aussi du canton de Vaud, etc. Donc, il y a un peu un fonds qui se crée comme ça. Après, des sponsors, j'en ai pas encore beaucoup, on va dire. Je me suis pas beaucoup focalisée sur ça ces dernières années. Bah, cette année, je me suis dit qu'il fallait que je me lance un peu. J'ai un peu contact avec Ronnie Schiltner qui m'aide aussi un peu, mais j'ai pas encore décroché un gros contrat. J'ai l'impression. Après. J'ai quand même quelques sponsors, hein, surtout le matériel. Le matériel, ça je reçois, mais j'ai pas encore de gros sponsors financiers. Ouais. Mais je pense que je sais pas exactement en fait si c'est différent en France que la Suisse, mais j'ai l'impression que sport individuel, chacun se débrouille un peu, quoi. J'ai l'impression.
Et donc, du coup, tu disais que tu étais en stage à Saint-Moritz actuellement pour préparer la fin de saison. C'est quoi ta fin de saison? C'est quoi ton calendrier?
À la fin de saison, le plus gros objectif, c'est Pontevedra, la finale. Après, je vais faire quelques World Cup à côté de ça. J'aimerais vraiment faire des bons résultats sur quelques World Cup, mais bon, le plus gros objectif, c'est la finale.
Tu vas faire Carlo Viari? Parce que je pense que vu le...
Ouais, j'hésitais entre Valence et Carlo Vivari, mais je me suis dit ça serait plus sympa quand même Carlo Vivari. Je crois Valence, c'est toujours un gros groupe qui arrive et puis ça se joue tout à la course à pied, quoi. Du coup, je me suis dit c'était un peu ennuyant, quoi. J'allais plutôt la jouer sur Carlo Vivari.
Donc pour ceux qui nous écoutent, Carlo Vivari, donc une étape qui se déroulera en République tchèque le 11 septembre prochain.
Un parcours vélo atypique avec Carlo Vivari.
Oui. Je ne sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Mais c'est possible que ce soit l'année dernière, elle a gagné, ouais.
Et c'est quoi l'objectif ou l'intérêt de retourner en Coupe du Monde si tu es rendu à être régulièrement top 10 en WTCS? Est-ce que c'est pour les dynamiques de course ou tu veux apprendre à être plus au contact ou...
Bon, là, cette fin de saison, il reste plus qu'une course VTCS. Du coup, on fait les courses aussi qu'il y a, je dirais. Mais après, World Cup, j'en ai pas encore fait tant que ça, je dois dire. Et je pense que c'est quand même une bonne opportunité de pouvoir monter sur le podium. Et je pense aussi la dynamique de course... Je pense que ça nage peut-être un peu moins fort qu'en VTCS. C'est plus atteignable pour moi, peut-être.
Pour la grande finale, tu te présentes en U23 ou en élite?
Je sais pas encore.
Question piège.
J'aimerais bien faire en élite.
Quand tu dis que tu sais pas encore, c'est parce que ça dépend pas que de toi, c'est ça?
Ouais, moi je vais un peu parler avec mon coach. Ça fait quelques semaines que je l'ai pas revu. Et là, il va arriver bientôt à Saint-Moritz. Donc, on va se poser, regarder un peu plus clairement ce qui arrive là, cette fin de saison. Mais je dois dire que j'aimerais bien pouvoir faire une fois de nouveau le championnat du monde U23 parce que la dernière fois, c'était ma première année U23 en 2021. Mais d'un autre côté, je me dis, pour jouer les points, c'est beaucoup plus intéressant en élite. Et j'ai encore une année en U23 l'année prochaine. Donc, je me dis, au pire, je le ferai l'année prochaine. Mais...
Après les Jeux, c'est peut-être bizarre de retourner sur une course U23.
Mais ouais, à réfléchir. Hein.
Ouais, et puis tu es quand même 12e au classement général de la WTCS actuellement. Donc, on parlait de soutien financier. Il y a également la bourse pour le classement général, sachant que la grande finale compte une fois et demi plus. Ça peut être intéressant pour toi aussi de ce point de vue-là. J'imagine que ça rentre en compte dans la réflexion avec ton coach
Ça compte pas une fois et demi plus. Hein. Une fois 25.
Une fois 25.
Il y a 1250 points à gagner. Alors, c'est vraiment un peu différent. Mais je pense aussi,
c'est toujours Nicolas Montavon. Pardon, vas-y.
Ce qui est différent aussi de l'année dernière, c'est que là, il me semble que tu, même si tu as fait Arena Games en début de saison un peu pour te mettre dans l'eau, tu vas pas faire les Super League. Et je suis bien placée pour savoir moi aussi que l'an dernier, quand on est arrivé à Abu Dhabi, toutes les deux, d'ailleurs, on s'est vus sur la course. On a vécu un sacré moment très très long parce que je pense qu'on était cramés. Et c'est vrai que si tu as une fin de saison un peu plus tranquille avant Pontevedra, si tu fais le choix de faire U23, je pense que tu seras très forte, mais je pense que tu arriveras aussi à être très forte très forte comme cette année, et qu'il ne faut pas que tu penses à l'année dernière parce que c'était quand même une situation un peu spéciale, quoi. On est arrivé un peu sur les rotules.
Ouais, c'est vrai. Là, je suis contente d'avoir un bon bloc d'entraînement de nouveau avant cette dernière course.
Du coup, on ne verra pas du tout piquer une tête en Super League cette année. Ça va, si je réserve un lit pour toi dans ma chambre.
Toi, tu fais la Super League?
Tu regardes pas les posts Instagram, mon vieux? Je suis
rigueur. Je t'ai pas autant que ça sur Insta, non. Mais cool. Du coup, non, je vais venir à aucune course. Après ça, j'ai pas vraiment négocié, en fait. Je suis pas très bonne à négocier. J'ai pas trop demandé. En début de saison, Ronnie m'a demandé, tu veux faire la Super League? Je dis, non, je crois cette année, je vais plus me concentrer sur les JO, enfin, la qualif, etc. Faire des bonnes courses avec World Triathlon, enfin, sur les courses World Triathlon. Et je me suis dit que c'était un bon choix parce que c'était vraiment cool l'ambiance, etc. La Super League, ça fait aussi un bonus d'argent, mais d'un autre côté, qu'est-ce que tu peux montrer aux sponsors si je me qualifie pas pour les JO parce que j'ai pas pu faire une bonne course à la dernière course, enfin tu vois, plein de choses comme ça. Je me suis dit cette année je vais pas le faire.
On aura sûrement une autre occasion l'année prochaine.
Je me dis ça, façon. Ouais, exact. Ouais.
Justement, l'année prochaine, c'est Paris 2024. C'est qui pour toi, qui va être champion olympique et championne olympique? Question piège.
Réponds bien.
Du coup, là, il y a quelqu'un qui a... Vous attendez que je dise Jeanne. qui est-ce qui va gagner? J'aurais eu envie de dire Georgia, mais maintenant qu'elle est blessée, etc., elle a l'air vraiment un peu dans un down. Du coup... Je pense pas.
C'est l'année prochaine, elle a le temps de se remettre.
Ouais, mais c'est... Je sais pas combien grave c'est son truc.
Non, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, mais pas demain, quoi. C'est ouais. Bon, que je viens de dire.
Après, les Françaises, elles sont hyper fortes en ce moment. J'aurais presque envie de dire que Emma Lombardi aurait sa chance de gagner. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que la fédération française met beaucoup trop de pression aux Français avant les JO, et que c'est pour ça qu'ils arrivent jamais vraiment à performer. Ils performent sur toutes les VTCS avant.
Ne va surtout pas sur ce sujet parce que c'est reparti pour une heure. Hein, s'il te plaît, Katia, reste suisse, reste neutre, fais comme moi.
Ok, alors on peut couper ça.
Pourquoi tu dis ça? Non, mais t'as très raison de le dire, je pense. Hein. Comment on voit comment les pays d'ailleurs analysent la situation française.
Et chez les hommes, Katia, est-ce que tu regardes d'ailleurs, est-ce que tu regardes un petit peu les manches hommes, ou est-ce que non, tu te concentres que sur les femmes?
Déjà, elle a son copain qui.
Oui, court, oui. Non, clairement, je regarde la course chez les hommes. Bah, franchement, ça, je trouve que ça serait vraiment cool que. Christian Blumenfeld, il gagne de nouveau. Ouais.
Quoi? Pourquoi?
Vous le voyez pas, mais derrière les écrans, là, il y a eu quelques mouvements.
Le drapeau norvégien et suisse, c'est presque le même. Je vous ai dit, tous les riches norvégiens viennent mettre leur argent en Suisse. C'est presque lié, c'est comme ça.
Bon, honnêtement, cette saison, j'ai appris à connaître un peu mieux les Norvégiens, aussi les femmes, et Gustav Iden, on a pas mal parlé aussi, et franchement, c'est vraiment une belle équipe, et j'aime bien les Norvégiens. Ils sont tous sympas.
Du coup, tu penses que Gustav va faire un podium aussi?
Je lui souhaite, franchement, mais ça va surtout dépendre comment il arrive à bien se remettre aussi mentalement, parce que je pense que c'est là la plus grande épreuve pour lui en ce moment. Et je pense que ouais, c'est hyper difficile pour lui de s'entraîner correctement en ce moment, mais bah, d'ici l'année prochaine, peut-être qu'il y arrivera. Ouais.
Après, il sera peut-être bon l'année prochaine, mais qu'il n'aura pas réussi à faire ce qu'il faut avant pour pouvoir se qualifier.
Ouais, c'est ça. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui lui mettent la pression aussi. Et ça aide peut-être pas forcément tout le monde à lui dire, ouais, c'est quand tu reviens à l'avant des courses, etc. Mais je pense que ça l'aide pas parce qu'il aimerait tellement, mais ça marche juste pas en ce moment.
Et pour le relais,
elle va, pour le relais, tu pronostiques quoi?
Je dirais France premier. Je pense que leur relais, il est tellement solide que deuxième, je dirais les Suisses. Je trouve qu'on a une bonne équipe et qu'on peut le faire. Après, ben, c'est toujours difficile à dire comme ça en avance, mais j'espère. Troisième, je dirais les New-Zélandais.
Tu veux pas la Grande-Bretagne, ni les États-Unis.
Ouais, il y a l'Allemagne aussi qui s'en vient.
Ouais. Les États-Unis, non, ils sont pas hyper forts en relais. Ouais, Grande-Bretagne. J'avais surtout hésité avec les Allemands, je dirais. Je pense que les Allemands, ils ont une bonne chance de monter sur le podium. Hein.
Mais Katia, est-ce que tu peux faire aussi tes prédictions pour toi? Parce qu'en fait, on a parlé de toutes, mais là, on aimerait savoir c'est quoi tes vrais objectifs à long terme et ensuite, à quel point tu aspires vers le haut? Parce que j'imagine que tu aspires vers le haut, surtout à ton âge et là où tu en es rendu. Tu es pratiquement l'athlète la plus jeune qui a les meilleurs résultats en ce moment
avec
sur
Emma,
le circuit.
Ouais,
oui, ouais, Emma, elle a quand même un petit step devant moi, je dois dire. Mais bah, si j'ose le dire, mon rêve, c'est la médaille olympique. Après, je le vois pas en 2024, mais j'espère pouvoir faire un diplôme au JO. Ouais.
Diplôme, c'est top 8.
Diplôme, c'est top 8. Ouais. Bah, en fait, c'est aussi hyper important pour les Suisses en général d'avoir un diplôme parce que c'est ce qui donne l'argent à la fédération, etc. Enfin, pour Suisse Olympique.
Attends, quoi? Tu veux dire que il n'y a pas que les médailles qui sont valorisées dans le sport? C'est ça? Redis-le, s'il te plaît. J'aimerais bien qu'on l'entende un petit peu plus. Que avoir une médaille, c'est super, mais il n'y a pas que la médaille et que être en top 8, c'est déjà extraordinaire aussi.
Bah, le truc en Suisse, pour motiver les athlètes, ils sont obligés d'aller jusqu'au diplôme parce que des fois, il y a tellement de Suisses dans le podium que du coup, tu vois, c'est un peu ça l'histoire, quoi.
Ouais, ça doit être ça, ouais.
C'est ça l'histoire.
Ah, mais genre, tu vas vraiment avoir un diplôme après?
Mais à part ça, c'est quelque chose d'assez spécial en Suisse. Et je sais qu'il y a peu de nations, voire pas de nations, qui valorisent le diplôme. Mais en Suisse, clairement, il est valorisé. Alors évidemment, pas au même titre qu'une médaille. Mais comme Katia l'a dit, c'est hyper important pour les fédés parce que ça les met dans une catégorie. Ils ont plus de subventions et de subsides pour leur fédé, quoi. Donc, on voit plein de sports qui se battent pour ce diplôme.
Ouais, ça reflète une fédération qui est en santé généralement quand t'as un flot continuel d'athlètes qui réussissent à être en top 8 versus... tout misé sur la médaille et cassé du monde.
T'as une athlète qui te fait rêver, Katia? Est-ce que t'as, que ce soit active ou retraitée, on va dire, est-ce que t'as quelqu'un vraiment que tu suis, qui te fait rêver, que t'admires ou pas du tout?
Depuis que j'ai appris à connaître Jeanne Leher l'année passée, je dois dire, sa course à pied, elle me fait vraiment rêver. Ouais.
Mais pas le reste, du coup.
Je trouve que... Ah si, bah oui, non, mais c'est une athlète hyper complète, hein, c'est sûr, mais je trouve qu'elle est impressionnante à la course à pied surtout.
C'était un poste sponsorisé par Luxembourg Triathlon.
Ah vrai. Si bah, vous voulez, je peux dire quelqu'un d'autre. Hein.
Non, bah écoute, la parole est libre ici. Hein.
Mais ouais, mais qui serait ton athlète comme modèle, point de vue, pensée, ensuite?
Mais elle te l'a dit, c'est Jeanne Leher.
Oui, mais non...
il aime pas ta réponse, il veut quelqu'un d'autre.
C'est pas ça, mais...
Alors, je trouve que au niveau la mentalité, etc., c'est un peu typique suisse de dire ça, mais j'aurais dit Roger Federer quand même. Là, il est resté tout le temps hyper humble et c'était hyper intéressant toutes les interviews qu'il donnait après ses grands matchs.
On aimerait bien pouvoir en dire autant d'un tennisman français, mais nous, on a Benoît Paire. Voilà. C'est un autre style.
Bah, merci beaucoup, Katia. On va pas t'embêter plus longtemps. On va te laisser retourner, surtout te reposer et à l'entraînement, il me semble. C'est quoi de prévu pour toi cet après-midi?
2h30 de vélo avec un peu des sprints. On fait toujours la même chose. Hein. 8h course à pied. 8h course à pied, 10h30 natation, 2h30 de vélo l'après-midi à 15h30, 16h.
L'entraînement à la Suisse, hein, c'est carré. Hein.
Pour ceux qui nous écoutent, qui s'intéressent à l'entraînement en triathlon, voilà.
Putain, mais moi, je vais devenir coach dans le triathlon, quoi. Ça, c'est magique comme sortie.
Non, mais là, c'est spécial quand même. C'est parce qu'on fait un entraînement un peu d'adaptation au début, etc. Et puis, on a un plan, on a réservé les lignes tous les jours à la même heure, etc. Enfin, c'est pour ça aussi. Mais voilà, ça devient un peu répétitif quand même.
Le message est passé pour ton entraîneur.
Bon, on va savoir que ton entraîneur écoute les podcasts.
C'est bon, il parle pas français.
Merci d'avoir été ici avec nous. Et puis, on te souhaite le meilleur pour la suite.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.
À bientôt.
À bientôt, merci. Ciao, ciao.
1, 2, 3. Le débat en bois.
Et on passe maintenant au débat en bois. Le débat en bois cette semaine alimenté par bien la PTO Milwaukee. Alors le rappel des faits, c'est assez simple. Frodeno à la sortie de T1, qui se rend compte qu'il a oublié sa swim skin, il l'enlève et puis on le voit qu'il regarde un petit peu à gauche à droite et il y a un officiel qui vient vers lui, lui tend la main, il lui lance sa swim skin et Frodeno repart. Alors la question, est-ce que Frodeno aurait dû être pénalisé à minima ou même DSQ pour avoir abandonné son matériel? C'est la question du jour, c'est le débat en bois.
Moi je suis la plus neutre parce que je fais pas de long, mais alors je pense que disqualifier c'est un peu too much, mais pour le coup il aurait dû être pénalisé, genre comme une pénalité standard. Quand tu vois par exemple sur la WTCS de Sunderland que les Neo Z, elle met son vélo au mauvais endroit, elle enlève son casque, ensuite elle se rend compte que c'est pas chez elle, elle va mettre son casque son vélo plus loin, elle a déjà enlevé son casque donc elle a une pénalité. Bah elle a perdu du temps, elle a tout rangé elle-même. Là en l'occurrence lui il oublie un truc, bah ça arrive, mais dans ce cas-là où tu y retournes ou tu y retournes pas, mais tu prends une pénalité. Elle y est retournée et elle a pris la péna.
Ah, mais là, le débat, c'est aussi de se dire que t'as l'officiel qui vient lui tendre la main, quand même.
Oui, mais on s'en fiche. Ça, c'est pas la question. Et souvent, les officiels, c'est des bénévoles. Enfin, là, je sais pas comment ça se passe en PTO, mais j'imagine que c'est des bénévoles.
Ça n'empêche pas de connaître la règle. Hein, c'est parce que t'es bénévole que tu connais pas la règle.
Non.
Est-ce que c'était vraiment un officiel, d'ailleurs?
Enfin, c'est pas parce que quelqu'un te dit saute d'un pont, tu sautes d'un pont, non? Bah voilà.
Ça dépend. S'il est bénévole, il te le dit gratuitement. Du coup, peut-être que. Non, moi, je pense pas qu'il aurait dû être disqualifié, mais effectivement, je sais pas sur quel règlement s'appuie la PTO. Ce serait intéressant de regarder quel est leur. Est-ce qu'ils ont leur propre règlement ou est-ce que.
USA Triathlon, normalement.
Il faut lui mettre une ou deux minutes de pénalité, enfin, ou 30 secondes, j'en sais rien. Au moins, faire genre, ça a existé, quoi.
Ouais, mais tu peux pas disqualifier Frodeno, de toute façon, en vrai, ça changeait rien à la course.
Non, tu disqualifies pas Frodeno, mais.
Ouais, mais ça changeait rien à la course, c'est pas un argument recevable, parce qu'à ce moment-là, quelqu'un qui a deux minutes d'avance, tu peux lui dire de couper le parcours, puisque, bah, tu peux couper d'une minute, tu t'en fous, t'as deux minutes d'avance, ça change rien à la course.
Moi, je vais te dire mon point intelligent de la journée. très important, ding. Le triathlon, ce n'est pas le sport où t'es le plus rapide, mais c'est le sport où tu as des tâches à faire. Je veux dire que c'est des prises de décision, tu t'entraînes à sauter sur ton vélo, tu t'entraînes à faire plein de gestes sans cesse. Si tu fais une erreur, ça veut dire que t'es trop fatigué ou tu l'as pas assez répété. C'est comme ça.
Mais tu dois quand même être le plus rapide.
Il fait une erreur technique, dans le sens, il doit être sanctionné. Et du coup, c'est ça la perf. C'est un ensemble de choses. Et l'autre truc qui est super important et que là, je trouve que le monde se trompe totalement, la journée après, une athlète, je sais plus exactement son nom, a reçu une pénalité parce qu'il y avait un objet en dehors de sa boîte. Même en PTO, ils l'ont appliqué. Ce qui veut dire qu'en fait, on la pénalise parce qu'elle n'a pas pris le temps de remettre la chose dans la boîte. Et ça revient à Frodeno aussi, voilà.
Et parce qu'elle n'est pas championne olympique aussi, peut-être, du coup.
Mais du coup, des règles sous prétexte, toi t'es champion, t'as telle règle. Enfin, quand tu te mets sur la ligne de départ, tout le monde a les mêmes règles.
Ouais, alors moi, mon point de vue là-dessus, pour moi, la PTO, c'est du sport spectacle. C'est de la diffusion, c'est voilà. Donc là, on est typiquement sur ce week-end, ils ont délivré du spectacle avec une tête d'affiche qui, en l'occurrence, Yann Frodeno, la légende vivante du triathlon. Donc, Yann, je pense qu'à ce moment-là, si le gars il lui dit « va remettre ça dans ta caisse », à mon avis, il y va. Je pense pas qu'Yann, il va…
Alors, encore heureux qu'il y va, ça va, il peut respecter les règles quand même. Mais c'est voilà. Pas parce qu'il est champion olympique.
Le mec, il remarque en montant sur son vélo qu'il a sa swimsuit, il le donne à un gars, le gars, il le prend. À mon avis, c'est pas un arbitre, c'est le race directeur qui voulait faire un selfie avec la légende vivante. Tout le monde la prenait. Et y compris la situation, elle m'arrive. Si je suis là à ce moment-là, c'est Yann Frodeno, tu la prends. Maintenant,
tu la mets sur Vinted.
Lui mettre une pénalité pour l'exemple. Après, tu lui mets une pénalité de 15 ou 20 secondes. Je ne sais pas combien on sait sur le règlement World Triathlon, mais ça ne change rien à la course. Donc, au fait, à mon sens, c'est un faux débat. On veut du
sport. Mais ça dépend, parce que en tri, plus la distance est longue, plus ta pénalité est longue. Donc, peut-être qu'une minute, en l'occurrence, le.
Sachant qu'il gagne avec même pas une minute d'avance sur Jason West, en vrai, ça aurait pu jouer sur le résultat de la course.
Non, puis t'as l'état d'esprit, l'émotion durant l'effort. Après, s'il est furieux contre lui parce qu'il sait qu'il a fait une erreur et ainsi de suite, et qu'il perd le train, qu'il suit et tout, on le sait pas le résultat.
Non, mais regarde, en VTS, t'as ta lunette ou ton bonnet à côté, c'est quoi, 15 secondes la pénalité?
Ça dépend, c'est 10 sur un sprint et 15 sur un M.
Ouais, bon, mais disons même 30 secondes. Yann, il remarque, l'autre, il reste statique, il lui prend pas sa combi. Yann, il lance sa combi en arrière, elle tombe à côté de sa caisse parce que c'est pas un beau basketteur. C'est DSQ ou pas?
Sciemment, il le jette sans retourner à son box, oui.
Bon.
De toute façon, la question, pour moi, c'est pas est-ce que Yann a bien fait de faire ça, pas bien fait. C'était plus est-ce que, comment PTO aurait dû réagir, et PTO aurait dû réagir en lui mettant une pénalité, point barre. Il y a même pas de
problème. Ouais, en fait, moi je trouve que c'est ça, c'est que le DSQ pour ça, je pense pas, parce que de toute façon, c'est pas forcément prévu dans le règlement. Maintenant, tu fais une erreur, c'est pas parce que t'es Yann Frodeno que tu dois pas être pénalisé. Et le principe du triathlon et de tous les sports, c'est que le règlement, il est le même pour tout le monde. Après, ce qui est sûr, c'est que l'erreur qu'il a fait, c'est pas une erreur qui lui fait gagner du temps. Clairement, il trifouille avec sa swim skin, il s'en rend compte, ça lui fait perdre du temps. Voilà, maintenant, s'il avait dû aller remettre sa swim skin dans la boîte, effectivement, peut-être qu'il aurait pas pu prendre le premier groupe et que du coup, ça lui aurait fait perdre encore plus de temps. Mais d'un autre côté, bon, tu vas pas disqualifier un gars pour ça. Enfin, je trouve ça dommage. Quand on parle,
parce que là, Alex, il parle de la fille qui a eu une pénalité le lendemain. Moi, je reviens juste sur Matthew Sharp. Le week-end dernier, ou il y a deux week-ends de ça, qui se fait disqualifier pour un zip pas fermé. Est-ce qu'il a gagné du temps à avoir son zip pas fermé? Je ne suis pas sûre. Il s'est fait disqualifier. Donc, à un moment donné, il se serait appelé Yann Frodeno, il se serait pas fait disqualifier, c'est ça? Et c'est là-dedans que moi, je
me dis,
mais what the fuck, où tu mets une pénalité à tout le monde, où tu disqualifies tout le monde, déjà, il y a pas mal d'injustices dans la vie, mais alors, le sport, c'est quand même là où c'est plutôt clair, donc, suivez le règlement et basta, quoi.
Ouais, et à mon avis, le problème de PTO, c'est que on a vu pas mal d'infractions à la télévision et qui sont claires. Et moi, c'est là que j'ai vraiment un problème.
Ça, on en a déjà parlé plus tôt dans le podcast, mais voilà, là, le fait, c'est de se dire la pénalité qu'on n'a pas donnée, est-ce que c'est parce que c'est Frodeno ou pas? Et à ce moment-là, est-ce que ça pose un problème ou pas? Ou est-ce qu'on accepte tout simplement de se dire, c'est une légende? Bon, ça aurait rien changé, c'est pas grave. Le deuxième, il s'assoit sur 40 000 euros. Le troisième, il s'assoit. Parce que là, en fait, c'est ça aussi l'enjeu. C'est qu'il y a des gros, gros enjeux financiers. On parle pas de 1 000 euros, quoi. C'est des dizaines de milliers d'euros.
Ouais, et puis clairement, ça aurait permis à Mathis de monter sur le podium. Et tu fais podium sur une course PTO. C'est pas la même chose que quand tu fais médaille en chocolat.
Bah, c'est clair. Le coach, il prend ses 20% en passant. Il est content.
Exactement.
Quoi.
C'est 10%.
Mais c'est 50%. Ouais.
50%. Plus la prime est élevée, plus les pourcentages sont élevés.
Mais franchement, moi, je continue à croire que l'erreur, elle est pas, alors, de Yann dans le sens où c'est lui qui crée l'erreur de pas enlever sa substitute, mais c'est plutôt l'erreur du gars qui tend son bras et qui la donne.
Qu'il lui montrait le box, peut-être qu'il tournait le bras pour lui dire, le box, il est là-bas. Non. Et l'autre, il a fait, super, merci, c'est gentil.
Et puis après, PTO, pour le moment, dans ce que je vois, alors je suis pas autant impliqué que vous là-dedans, mais ce que je vois, c'est que les gars, ils veulent diffuser du sport spectacle. Souken, ils en ont eu, ils ont une superstar qui a gagné, tout le reste. Voilà, ça passe au-dessus.
Je pense que, en fait, ils vont pas changer les choses, même si nous, on peut débattre autant qu'on veut, ils vont rester dans leur truc du moment que ça marche, qu'ils ont leur vue, qu'ils ont leur sponsor qui suit et compagnie,
C'est pour ça que cette rubrique s'appelle le débat en bois. Donc, merci à toutes et à tous donc pour ce débat et puis en bois. Et puis, on rediscutera de ça au comptoir d'un bar d'ici peu peut-être au test event d'ailleurs.
À Paris.
Dans quelques semaines. Allez, on bascule tout de suite au quiz du Trichot. Le quiz, c'est tout de suite. Allez, on attaque le quiz du Trichot. Alors là, c'est très simple. Il va y avoir différentes questions à vous de répondre, soit le plus vite, soit c'est un des suites de noms à donner. Enfin, je vais vous expliquer tout ça. On commence avec la première question, et c'est une question « Je suis ». Donc là, c'est le premier qui a la réponse, qui gagne un point. La question « Je suis », donc vous allez essayer de trouver une marque. Alors, je suis une marque. Je suis une marque fondée en 1976, une société française.
Kiwami.
Oh, génial.
Connue pour la qualité de mes produits. D'abord conçue pour la plongée sous-marine.
Ah, mais pas Kiwami.
Bascule vers le triathlon en 1984.
Aquaman.
En lançant Aquaman. Un point. Et donc, c'était bien, effectivement, la marque Aquaman. J'ai équipé Lessing, Welch, Whitefield et plus actuellement Vincent Louis et Cassandre Beaugrand, Aquaman. Allez, alors maintenant, ça va être à vous de donner à tour de rôle un nom et vous allez me donner un nom de vainqueur, donc de championnat du monde de séries, donc des séries de championnat du monde, donc c'est-à-dire King, donc du vainqueur des séries mondiales de triathlon depuis 2009, et on parle là chez les hommes, et c'est à toi de commencer, Jeanne, à toi la parole.
Léo Bergère,
c'est bon.
Vincent Louis.
Allez Alex, c'est bon.
Mario Mola.
C'est bon pour Julien, à toi Jeanne.
Javier Gomez.
C'est bon pour Jeanne.
Alistair Brownlee.
C'est bon pour Alistair Brownlee.
Est-ce que Jonathan Brownlee n'a pas gagné une année? Une seule fois?
C'est bon pour Jonathan Brownlee.
Oh God. Oh, mais là, après, on est sur des périodes où j'étais pas née. Hein.
Alors, tu étais née, Jeanne. On est depuis 2009. C'est entre 2009 et 2022.
Je faisais à peine du tri. On peut dire plusieurs fois quand la personne a gagné plusieurs fois?
Non, non. Alors là, il reste un nom et après, je sortirai la carte Joker.
Non, mais voilà, il reste un nom aussi. Donc, c'est le tout premier. C'est le tout moi premier, j'imagine.
Je ne donnerai pas d'indice, allez, c'est à toi.
Donc, en 2009, qui faisait encore du triathlon.
Non, mais vas-y, demande-lui la réponse en cas, Jeanne. Moi, je peux vous la donner si vous voulez la réponse.
Je peux avoir la nationalité.
Allez, il te reste 3 secondes, Jeanne, pour donner un nom.
Est-ce qu'il 3, est français ou pas, juste
2, 1, et c'est trop tard, Jeanne, tu n'as pas donné de réponse, tu es éliminée. Alex, c'est à toi.
Tim Dunn.
Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Donc là, la balle est dans le camp maintenant de Julien. Julien, alors?
Bah, c'est pas Christiane Blumenfeld.
C'est Christiane Blumenfeld qui a gagné le titre en 2021. Bravo.
Oh, eh ouais, bien, vous dormez, bravo, là. Bravo.
Oh non.
Allez, troisième.
En 2009. Oh, c'est honteux, là. Oh God, non. Oh, je suis déçue d'avoir perdu la tête.
C'est fou quand même, parce que ça fait pas beaucoup de noms.
Question
au final.
Le plus rapide. Alors, Pierre Lecor était l'invité la semaine dernière, donc du Trichot épisode 19. En 2022, il devient champion du monde de triathlon longue distance. Où se déroulaient les championnats du monde?
D'accord. C'était pas en République tchèque?
À Samorin.
Oh, et Julien qui cède un petit peu de la réponse de Jeanne pour trouver le point. C'était effectivement à Samorin.
Samorin, c'est où?
En Slovaquie.
Non, mais d'accord.
Alors pour le moment c'est Julien qui est chip leader.
Ouais, mais là, alors, on partage le point quand même. Je l'ai.
Allez, dernière question. Alors là pour toi ça va être, tu pourras pas remonter Jeanne, mais par contre Alex peut remonter éventuellement Julien.
Non mais déjà si on fait.
Nous sommes en 2023, début juillet 2023. Qui a terminé chez les femmes deuxième du Grand Prix de triathlon de Metz?
Jeanne Leher.
Katacha, et ouais, et voilà, et c'était l'invité donc du jour. Elle a effectivement terminé deuxième du Grand Prix de triathlon de Metz. Bravo Jeanne, tu sauves l'honneur. Youhou. T'es pas Fanny, et c'est Julien donc qui remporte ce quiz du Trichot.
Il en a combien?
Il a deux points, Julien.
J'ai perdu sur Trichot.
C'est
ma deuxième victoire sur le quiz. Je tiens à le signaler.
C'est deuxième.
Je crois que j'ai le record.
Bravo en tout cas, merci, ça conclut notre Trichot épisode 20. Merci de nous avoir suivis. On se retrouvera donc la semaine prochaine, dans une semaine très particulière, une semaine pré-test event avec beaucoup de suspense, Et je pense et j'espère beaucoup déjà du suspense pour savoir si la course va se faire au format triathlon, du suspense pour savoir qui remportera le test event et si certains marqueront leurs critères pour les nationalités. Pensez à vous abonner sur nos différents réseaux sociaux. Vous pouvez également nous soutenir en nous versant un petit peu de café via l'application, via le site Buy Me a Coffee. Eh bien, on se retrouve très rapidement. À bientôt. Bonne semaine à toutes et à tous.
Salut. Ciao.